Dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire. Oui dire.
Oui dire. Sur Radio Campus 93.3.
Oui dire.
Bienvenue à toutes les oreilles qui nous prêtent leur attention en ce moment. Bienvenue sur Radio Campus 93.3 et surtout, bienvenue dans notre émission Oui Dire consacrée aux arts de la parole et plus particulièrement aux contes. Aujourd'hui, comme promis la dernière fois, vous aurez droit à un petit enregistrement réalisé lors des rencontres nationales du conte à Paris le 28 octobre dernier. En ce qui concerne les nouvelles du conte près de chez nous, c'est Monique qui se chargera de nous les dévoiler. Bonjour Monique.
Bonjour.
On ne l'entend pas très bien parce qu'elle est à l'autre bout, mais tout à l'heure vous l'entendrez mieux. Aujourd'hui, malheureusement, Laurent n'a pas pu être avec nous pour faire sa chronique ethno, mais ne vous inquiétez pas, Françoise a tout prévu avec une chronique spéciale autour du De la rue Éthanaise. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Pour cela, elle sera aidée de Christine.
Bonjour. Bonjour.
Et puis, toute cette chronique sera agrémentée de quelques lectures de contes que nous nous ferons un plaisir de réaliser à plusieurs fois, n'est-ce pas Fred ?
Oui, bonjour.
Et Fred, t'as amené quelqu'un aujourd'hui ? Je connais pas, c'est qui ?
Oui, bonjour, donc je m'appelle Pierre, je suis en première et c'est la première fois que je participe à une émission de radio, donc...
Eh bien, bienvenue Pierre et merci d'être avec nous. Et puis, bien sûr, il y a l'autre Pierre, le nôtre, qui sera là pour veiller sur nous afin que nous ne nous égarions pas dans la forêt obscure de la technique. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Le De la rue Éthanaise, j'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que cette bête étrange ? Françoise, tu peux peut-être éclairer nos lanternes.
Eh bien, Paul De la rue disait... Il n'y a rien de mieux pour connaître les contes que de les cataloguer, les classer et résumer pour chacun d'eux l'état des travaux. On sait que le conteur ne crée pas un conte, mais il crée sa version personnelle d'un conte.
Dis Françoise, tu peux m'expliquer ce qu'est un conte ?
Le conte, c'est un récit situé hors temps, hors lieu. Et il est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'œuvre d'auteur. C'est un récit apparemment simple, presque naïf, mais il est à la fois transparent et opaque. Sa simplicité est trompeuse. Alors, pour s'aventurer dans le monde des versions, le conte populaire français, catalogue raisonné des versions de France, établi par Paul De la rue et Marie-Louise Tenez, est l'outil principal des conteurs contemporains et des praticiens de différentes disciplines. Je propose d'abord un peu d'histoire. Les recherches sur le conte populaire français recueilli et noté fidèlement, commence en 1870. Entre 1870 et 1914, nous pouvons parler de l'âge d'or du conte populaire français, avec des collectages qui s'organisent dans toutes les régions de France.
Mais qu'est-ce que tu entends par collectage ?
Alors, le collectage est fait par des collecteurs et la catégorie des collecteurs recense les personnes qui ont recueilli des contes populaires, par exemple, comme les frères Grimm. Mais les conteurs ou gens de spectacle ou les auteurs de contes, genre littéraire, comme Andersen ou Marcel Aimé, ne sont pas considérés comme collecteurs, quoique la distinction soit parfois difficile à établir. Je m'explique. Par exemple, Charles Perrault. Lui, il transforma les contes populaires en chefs-d'œuvre de la littérature française. Fin XVIIe, à la cour de Louis XIV, le monde était aux contes. Et en 1697, Perrault, avec les contes de ma mère Loire, recueil de seulement 8 contes merveilleux, tous issus du folklore populaire, sont adressés à Mademoiselle, la nièce du roi. Et Perrault, s'adressant aux jeunes filles de la cour, en a fait des contes éducatifs enrichis d'une morale. Est-ce que Perrault est un collecteur ?
Et des collecteurs connus, tu peux nous citer quelques-uns ?
Eh bien, jusqu'en 1914, il y en a deux. Qui ont beaucoup collecté, c'est Cosquin en Lorraine et Sébillot en Haute-Bretagne. Et ils ont vraiment œuvré pour recueillir des contes populaires auprès de conteuses et de conteurs. Et puis, il y a eu une rupture longue de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Seconde. Et la reprise des recherches s'opère en 1946 avec différents collecteurs comme Ariane de Félis, qui, elle, a collecté dans le Berry, le Poitou, la Haute-Bretagne. Geneviève Massignon, qui, elle, a collecté en Ouest-France, Maugard dans les Pyrénées, Joysten dans les Alpes et bien d'autres. Alors, juste après cette introduction historique, je propose de présenter le catalogue raisonné des versions de France, de Delarue et Tenaise. À partir des différentes collectes, Paul Delarue a établi un répertoire complet des documents recueillis par les collecteurs et en a fait un inventaire. Il a recensé et analysé, dans le catalogue raisonné des contes, de traditions orales des différentes cultures de l'Hexagone, ainsi que des régions d'outre-mer de langue française. Et le catalogue raisonné est organisé selon une classification internationale dite de Arne et Thomson. Alors, je me suis amusée à peser ce gros volume, qui fait 1,738 kg. C'est pas rien. Et en l'ouvrant, on peut lire pour chaque conte. D'abord, que chaque conte type est désigné par le numéro de classification Arne et Thomson, et avec un titre. Suit le résumé d'une version caractéristique ou un conte intégral. Ensuite, est présentée l'analyse du thème, décomposé en ses éléments, c'est-à-dire les motifs. Et puis, il y a la présentation des différentes versions du conte type avec le nom du collecteur, le titre de l'ouvrage d'où elle a été tirée, le titre de la version, le pays d'origine. Alors, il faut savoir que Delarue a méthodiquement placé du nord au sud de la France toutes les versions. Elles ne sont pas par ordre alphabétique dans le catalogue. Et enfin, des remarques sur le conte, les influences et l'extension du conte dans le monde entier. Ce gros volume, édité entre 1957 et 1985, regroupe les contes merveilleux, les contes d'animaux et les contes religieux. Et en 2000, Marie-Louise Tenaise et Josiane Bru ont édité les contes nouvelles. Nous venons d'écouter Le Furet de l'album Les Mustélidés de la compagnie Joseph Tascone. Replongeons maintenant dans le catalogue raisonné des versions de France et commençons le voyage au pays des contes merveilleux.
Et les contes merveilleux, qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont merveilleux par rapport à d'autres contes?
De façon générale, les contes merveilleux retracent des itinéraires. Ils sont considérés comme initiatiques parce que les épreuves marquent les divers moments de passage de l'enfance et de la jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Mais, petite différence, il y a quelques contes, comme Le Petit Poussé ou Chaperon Rouge, qui ne retracent que le début du parcours, puisque le héros, après un périple aventureux, retourne vivre auprès de ses parents. Dans les racines du conte merveilleux pour Vladimir Prop, un des principaux fondements structurels des contes est le voyage dans l'autre monde. Alors, pour information, les contes merveilleux dans le catalogue raisonné sont classés du numéro 300 à 749. Et moi, j'ai choisi pour présenter le catalogue un conte qui s'appelle AT 327. Eh bien, vous claquez pas des dents ? Mais alors, vous n'êtes jamais rentré dans une assemblée de compteurs ? Eh bien, voilà ce qui arrive aux curieux. Un jour, un badaud flânait dans la rue. Il a entendu des rires. Poussé par la curiosité, il est entré sur la pointe des pieds. Une assemblée éminemment sérieuse se défiait à coups de numéros, on aurait dit un loto. « T47 !» éclat de rire. « T121 !» Ils se tordent de rire. « T753 !» Ils n'en peuvent plus et se tiennent le ventre. Le rire est communicatif et le badaud rit de bon cœur. Il lance « T124 !» Silence. Il demande abasourdi « Eh bien, vous riez pas ?» Et là, un petit barbu aux grosses lunettes lui dit « Vous ne savez pas la raconter ?» Alors le badaud s'en va déçu. Alors, la T327, me direz-vous. La T327, c'est Arne et Thompson. Parce que Arne et Thompson sont deux chercheurs finnois. Et ils ont répertorié tous les contes du monde entier. Et aujourd'hui, les titres des contes varient d'un pays à l'autre. Chaque type de conte reçoit un numéro. Par exemple, le petit poussé ou les enfants perdus dans la forêt est identifié par tous les folkloristes comme le AT327. La classification Arne et Thompson, notée en majuscule AT, est devenue internationale. Elle distingue quatre grandes catégories dans les 2340 contes types répertoriés. Donc, revenons au petit poussé, le AT327. Et ce conte comprend trois formes différentes. Le AT327A, c'est celui qu'on connaît, le conte de Grimm, Hansel et Gretel, ou celui de Madame d'Aulnoy, Finette et Cendron. Le AT327B, qui est noté le nain et le géant, et qui correspond en fait au petit poussé de Perrault. Et puis on a le AT327C, qui est l'enfant dans le sac. Alors, en guise d'exemple, nous allons vous proposer la lecture de Furon Furette, extrait du catalogue.
Une femme se marie avec un homme qui a déjà deux enfants, un garçon et une fille, nommés Furon Furette. Un jour, elle les mène dans le bois pour les perdre. Elle les installe et leur dit
« Tant que vous m'entendrez frapper, vous resterez ici. »
Elle va un peu plus loin et pend un sabot par une ficelle à une branche d'un gros chêne. Et le vent balance le sabot qui vient heurter le tronc en faisant « Kao, kao !» Mais la nuit vient, et les enfants entendent toujours cogner. « Ce n'est pas possible ! Qu'elle coupe encore du bois !» se disent-ils. Il s'approche et voit le sabot qui heurte le chêne. Mais la mère n'est plus là. Alors, la peur les prend et ils se mettent à pleurer. Où aller à présent ? Ils marchent, marchent, vont très loin dans la forêt et aperçoivent enfin une lumière vers laquelle ils se dirigent. Ils arrivent à la maison du diable. La femme leur ouvre et, en apprenant que leur mère les a abandonnés, elle a pitié d'eux, les fait entrer, leur donne à souper, puis les mène coucher dans le lit où sont déjà ses deux enfants. Le diable rentre, déclare qu'il sent la viande fraîche et veut savoir ce que c'est.
« C'est notre chat qui a fait chat, » dit la femme.
« C'est pas ça. »«
C'est notre chien qui a fait chien. »«
C'est pas ça. »
Et à tout ce que lui nomme sa femme, il répond que ce n'est pas ça. Alors, elle finit par lui avouer que ce sont deux pauvres petits-enfants égarés.
« Bon, je vais chauffer mon four et je les ferai rôtir. »
Mais les deux enfants entendent et disent à ceux du diable. « Changeant de bague et changeant de place !» Changeant de bague et changeant de place. Les enfants du diable avaient des bagues en or et les enfants perdus s'étaient fait des anneaux avec des soies de balai. Et ils échangent leurs bagues. Les enfants du diable étaient du côté de la fenêtre et les autres du côté du mur. Ils changent de place et Fur en Furette passent par la fenêtre, suivis de leur petit chien Courté. Le diable va les chercher pour les mettre dans le four. Mais il prend les siens qui disent
« Papa, je me brûle! Papa, je me brûle !»«
Brûle-toi si tu veux, c'est pas moi ton père !»
Quand il se rend compte qu'il a brûlé ses enfants, le diable se met à la poursuite des autres. Ceux-ci, après avoir marché toute la nuit, étaient arrivés au bord d'une rivière et des laveuses avaient écarté leurs draps sur l'eau pour les faire passer. Le diable arrive au bord de la rivière et demande
« Avez-vous pas vu passer Furon Furette et leur petit chien Courté qui les suivait ?»«
Oui, on les a vus. »«
Écarte ton drap que je passe. »
La laveuse étend son drap et le diable s'engage dessus. Mais lorsqu'il arrive au beau milieu de la rivière, la laveuse retire son drap, un bon coup, et le diable tombe dans l'eau. Et il y est encore. Puis, il n'y a plus de diable puisqu'il est noyé.
Avec du chocolat, je jouerai du pipeau et toi de la quena, copain, bien, 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 bien. Viens donc à la maison, bien, 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 bien. Chantons cette chanson. Le vent, ce nuage pour longtemps, je te donnerai mes poupées, mes habits, mes souliers, copain, viens, 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 viens donc à la maison, viens, 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 chantons cette chanson. Batman et même à Superman, papa on l'attachera, crois-moi, il l'avouera, copain, viens, 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 viens donc à la maison, viens, 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 chantons cette chanson. Des prunes, on verra le Père Noël, il nous taillera des ailes, copains. Viens, 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 viens donc à la maison, viens, 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 chantons cette chanson. Marocain, Mexicain, Tunisien, pour moi t'es mon copain, copain, donne-moi la main. Viens, 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 viens donc à la maison. Viens, 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 chantons cette chanson.
Thank you. sur Radio Campus 93.3.
Nous venons d'écouter Djemel de l'album Petit Homme de la compagnie Joseph Tascon. Revenons à nos moutons. Je vous présente les éléments variants du conte ou motif.
Et qu'est-ce que c'est qu'un motif ?
Alors le motif, c'est l'unité, paradoxalement, la plus difficile à définir et la plus facile à manipuler. Le motif est une unité de sens et il est le plus petit élément narratif. Par exemple, pour Vincent Cini, le motif c'est un nom plus un participe. Exemple, comme motif, des enfants perdus ou des vêtements échangés. Le motif est un micro-récit. D'ailleurs, Uther disait que les motifs étaient les briques de base pour la construction des récits. Donc, dans le catalogue, il y a 4 gros chapitres. Il y a le héros. Donc, Delarue présente le héros et à chaque fois, par rapport aux versions, qui est-il ? Un garçon ou une fille ? Enfant de parents pauvres ou de rois ? Ses enfants qui sont dans la forêt, qui sont perdus, ça c'est invariant dans ce type de conte. Par contre, ce qui varie, c'est qui et pourquoi perd-on les enfants dans la forêt ? De quelle ruse fait preuve le héros pour retrouver le chemin ? Pourquoi doivent-ils aller dans la forêt ? Et puis, la maison du méchant, est-ce un ogre ? Est-ce un diable ? Est-ce une ogresse ? Et après, chez ce méchant, quel danger encourent les enfants ? Par quel stratagème le héros arrive à duper l'ogre ou le diable ou l'ogresse ? Et puis après, il y a la poursuite. Comment les enfants réussissent à échapper à l'ogre et à le faire disparaître ? C'est-à-dire que le héros, les enfants dans la forêt, chez l'ogre et la poursuite, ce sont vraiment les invariants qu'on retrouve dans le AT327. Voilà. Alors, à l'écoute de Furon Furette, et je suppose que tout le monde connaît le conte de Perrault, le petit poussé, il est donc possible de dégager des motifs similaires. Si on a bien écouté tout à l'heure, on peut se rendre compte que les enfants perdus dans la forêt, on le retrouve dans les deux versions. Que les enfants accueillis dans la maison de l'ogre ou du diable, aussi. Le tour joué au diable, hein, avec le plus petit qui va échanger les bagues ou échanger les coiffes. Ou... Voilà. Les enfants du diable qui sont tués par leur père. La course-poursuite. Et puis à la fin, le héros qui enrichit avec le trésor du diable toute sa famille. Et ça, on le retrouve dans toutes les versions. Voilà. Alors, Delarue commence sa liste de versions par celle de Perrault, parce qu'elle a influencé jusqu'à la classification même. Je m'explique. Le titre de Petit Poussé appartient en fait à un autre conte, le AT700, Pousseau ou le gros de poing. C'est l'histoire d'un enfant gros comme un pouce qui est avalé par une succession d'animaux, qui grandit et retourne chez ses parents. Alors, en guise d'exemple, nous allons vous proposer la lecture de Pousseau, qui est aussi extrait du catalogue et qui lui est un AT700.
Il y avait une fois un homme et une femme qui ne pouvaient se consoler de n'avoir pas d'enfant. Lorsqu'ils cassaient les noix ou qu'ils taillaient le chanvre à la veillée, ils se disaient tous les deux
« Si encore nous avions un enfant, pas plus gros que le poing, nous saurions à qui laisser notre bien ?»
Or, un jour que la femme était occupée à faire son pain, toutes ses poules entrèrent à la fois dans la cuisine, de sorte qu'elle ne pouvait aller et venir sans trébucher à chaque instant. Elle s'impatienta.
« Si encore nous avions un enfant, pas plus gros que le poing, il m'aiderait à renvoyer ses poules qui m'empêchent de faire mon pain !»
Tout en parlant, elle pétrissait un morceau de pâte dont elle fit un petit bonhomme qu'elle mit debout sur la huche en l'appuyant contre le mur. Ensuite, elle le contempla longuement.
« Si encore nous avions un enfant, pas plus gros que ça !»
Elle poussa un grand soupir de chagrin, sortit dans la cour pour retourner du linge qui séchait au soleil et revint toute songeuse à pas lents vers ses corbeilles de pain. Après quoi, Elle fut joliment étonnée de voir un petit bonhomme, pareil à celui qu'elle avait pétri et gros comme la main, qui trottait dans la maison. Elle lui demanda
« Qui es-tu ?»
Il répondit
« Hé, mère, ici le gros de poing, que te même à se fait coup matin, à enlever les pendelles du pain. »
Et armé d'une houssine, il chassa les poules hors de la maison. La bonne femme émerveillée lui dit alors de porter un petit pot de soupe à son père qui laborait. Tout près d'arriver à son but, il fut arrêté par un fossé plein d'eau et il appela
« Père ! Oh père !»
L'homme cessa de labourer, puis il regarda de tous les côtés pour savoir d'où venait la voix, mais il n'apercevait rien, quand Gros de Poing cria encore plus fort
« Père ! Oh père ! Viens donc me souterre !»
L'homme ne sut que penser, tellement il fut étonné lorsqu'il aperçut le petit enfant, si petit, et il lui demanda
« Qui es-tu et où vas-tu ?»«
Il vint de la maison, t'emporter la soupe que ma mère t'envouille. »
Le père prit Gros de Poing sur sa main, le regarda de 100 façons différentes et dit
« Va garder mes bœufs pendant que je mangerai. »
Puis quand il finit son repas, il voulut mettre Gros de Poing dans sa poche parce qu'il ne pouvait pas suivre la charrue. Mais le petit s'écria
« Non, non, marche-moi, pousse-moi sur le bord de ton sapio qui veille le pays !»
À quelque temps de là, il se rendit pour ses affaires à une foire très importante. Et pour l'amuser et lui montrer la fête, il emmena Gros de Poing, toujours assis sur le bord de son chapeau, se promena ainsi dans la foule et finit par s'arrêter devant les tréteaux de certains batteleurs qui donnaient la comédie en plein vent. Mais pendant que tout le monde était occupé à regarder les tours de force, l'un des comédiens vola Gros de Poing pour gagner de l'argent en le faisant danser sur la corde, et il le mit sur le bord de son chapeau. Quand les saltimbanques eurent plié bagage et qu'ils eurent fait un petit morceau de chemin, Gros de Poing demanda à celui qui le portait sur son chapeau de descendre un instant pour une affaire qui ne souffre pas de délai. Le bateleur comprit et le posa par terre. Mais le rusé bonhomme se sauva dans un trou de taupe. Les comédiens s'en allèrent bien désappointés. Il était déjà nuit quand Gros de Poing sortit du fond de son souterrain et qu'il se mit en devoir de rentrer chez ses parents par le chemin le plus court. Il en était venu à traverser une grande forêt lorsqu'au plus épais du bois, il entendit du bruit, eut peur, monta au sommet d'un foyard et se dissimula sans peine dans les branches. Alors, arrivèrent sous l'arbre trois voleurs qui venaient partager un trésor qu'ils avaient dérobé. Le maître voleur étala par terre des pièces d'or et d'argent, des pierreries et toutes sortes d'objets précieux, en fit trois parts et dit à ses deux camarades
« voilà ta part et voici la mienne. »
Chacun prit ce qui lui revenait. À ce moment, Gros de Poing, caché dans les feuilles et imitant la voix du compagnon, se mit à dire
« et ma part ?»
Le maître voleur crut que son camarade réclamait contre le partage et il le frappa si fort qu'il le tua. Et pareil sort advint au second compagnon après un nouveau partage. Puis il prit tout le trésor et dit
« Enfin, voilà donc ma part. »
À ce moment, Gros de Poing s'écria, imitant successivement la voix des deux voleurs qui avaient été tués.
« Et ma part ? Et ma part ?»
Le maître voleur, entendant parler des morts, fut tellement effrayé qu'il laissa là son trésor et se sauva de toute la vitesse de ses jambes. Gros de Poing descendit de son arbre, cacha sous des feuilles le trésor qu'il ne pouvait emporter, de façon à venir le chercher plus tard avec son père, et cela fait, il chercha son chemin pour rentrer chez ses parents. Petite note du collecteur. Ici se place un épisode moins fréquent dans la tradition que nous avons supprimé. Le héros ayant demandé asile pour la nuit à un sabotier et celui-ci le lui ayant refusé, Gros de Poing s'introduit dans sa cave où il fait un tapage tel que le sabotier court chercher le curé pour chasser le diable. Caché dans une coquille de noix, Gros de Poing reste collé à la boue des semelles du curé, affolé lui aussi. Il retombe quand le curé se décrotte. Reprise du conte. Gros de Poing grimpa au fenil du presbytère et s'étendit dans le foin avec délice. Il s'endormit profondément, si profondément que le matin, quand la servante du curé vint prendre du foin pour donner à manger à la vache, il ne l'entendit pas. La servante prit un plein tablier de fourrage et le mit au râtelier. La vache le mangea, mais Gros de Poing était dans ce foin, et la vache l'avala. Alors il commença à appeler, à crier, à bramer.
« Plus de foin ! Il y en a trop ! Plus de foin !»
Cette voix qui sortait du ventre de la vache effraya tellement la servante qu'elle courut en toute hâte vers le curé.
« Monsieur le curé, votre vache qui parle, sûrement c'est quelque mauvais sort qu'on lui aura jeté. »
Le curé vint donc vers la vache, écouta à son tour et entendit très clairement
« Plus de foin ! Il y en a prou ! Plus de foin !»
Il dit tout de suite qu'il fallait emmener la bête et la tuer. On l'emmena chez le boucher, qui la tua. Mais personne ne voulut manger de la vache qui avait un sort. Et le boucher jeta les quartiers de viande, les boyaux et les débris dans un champ. Le loup, qui passait justement à ce moment-là, mangea la panse et avala le gros de poing qui n'avait pas encore eu le temps d'en sortir. Pour le coup, celui-ci fit un tapage épouvantable. Il criait
« Loup, t'as goulé le gros de poing, t'es produ !»
Et il tapait de tous les côtés dans le ventre du loup. Le loup courut chez un de ses pareils, lui contant qu'il avait avalé le gros de poing, qui lui donnait des coups dans le ventre, et déclara qu'il était perdu si on ne lui enseignait pas promptement un bon remède.
« Mon ami, le remède le plus simple est encore le meilleur. Mets-toi entre ces deux chaînes qui sont tout près l'un de l'autre. Tu te presseras les flancs et tu étoufferas ton ennemi. »
Le loup goûta cet avis, se glissa entre les deux chaînes, se mit au travail et se pressa les flancs et se tortura et se pressura tant qu'il put. Grimpé dans le gosier de son persécuteur, le gros de poing le laissa faire à loisir. Enfin, à bout de force, le loup se retira de son étau et se sentit en si bel appétit qu'il songea sans tarder à dévorer quelques moutons. Mais quand il crut prendre un mouton, Gros de Poing s'écria
« Guerre le loup ! Bretzière ! Guerre le loup !»
La bergère carra son troupeau et lança son chien qui força le loup à se sauver. Et toutes les fois qu'il voulut manger un mouton, le même avertissement retentit. À la fin, le loup était affamé. Alors Gros de Poing dit
« Écoute, laisse-moi les ouïes en veille, Bretzière. Vins donc dans une maison qui sait que si tu voulais y venir, te sous les rountants. Où y a d'ourlar, feu m'a plein la bassie. »
Le loup répondit
« Allons-y, je meurs de faim. »
Et il prit sa course, le nez au vent, tant et si bien qu'il arriva dans la maison. Dès qu'il fut entré, Gros de Poing se mit à crier
« Père ! Oh père ! Issu dans la courgnole du loup !»
Car il l'avait amené dans la maison de ses parents. Le père reconnut la voix, prit sa cognée, cassa les reins du loup et délivra le Gros de Poing, qui après avoir embrassé ses parents, leur expliqua tout de suite où était le trésor que les voleurs avaient laissé dans la forêt. Ils y allèrent et rapportèrent 2 sacs pleins d'argent, d'or et de pierreries, si bien qu'ils furent riches jusqu'à leur mort.
Eh bien, voilà Pousseau. Pousseau n'est quand même pas un petit poussé. Mais pourquoi cette lecture ? C'est parce qu'en fait, Perrault a repris l'image du tout petit, du souffre-douleur qui est perdu dans la forêt. Et en général, le héros est d'une fratrie de 2 ou 3 enfants. Et Perrault lui a donné à lui 7 frères. Mais il existe aussi au Proche-Orient un héros d'une fratrie de 40. Les exploits du héros de la T-327, c'est-à-dire les enfants perdus dans la forêt, s'expliquent par sa finesse d'esprit. Vous vous souvenez bien, il met des cailloux ou des graines semées pour retrouver le chemin du retour. Il change les coiffes ou les bagues. Et puis, il joue des tours aux méchants, à l'ogre ou au diable. Les contes de Perrault, le petit poussé ou le petit chaperon rouge, ont connu une grande diffusion par l'imprimé et ont influencé la tradition orale. Et j'ai envie de dire que Perrault a écrit ses 8 contes à partir de la tradition populaire. Et grâce à l'imprimé, ces contes littéraires sont revenus dans la tradition populaire. Beau retour aux sources. Mais pour se repérer dans la forêt des versions, le catalogue raisonné est vraiment indispensable. Imaginez, vous cherchez par exemple le petit poussé. Et là, vous n'aurez en fait que le AT700, la lecture qu'on vient de vous faire. Et puis, à l'inverse, vous feuilletez des recueils de contes et vous rencontrez le Mange Petiot, le frère et la sœur dans les bois, ou encore Eugène ou le petit Aigneux. Qui vous dit que ce sont trois versions de l'AT-327? Eh bien, le catalogue raisonné de Delarue et Tenaise. J'espère qu'avec ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous jeter dans le gros bouquin d'un kilo 738 grammes. Un seul bémol à votre enthousiasme, il n'est plus édité. Et puis nous attendons de pied ferme la classification des contes manquants dans le catalogue, tels que les contes de l'ogre et du diable dupé, les contes facétieux ou anecdotes, et les contes formulaires ou de randonnée. Voilà, et chemini, chemina, mon expo se finit là.
Dame Libellule s'en alla sonner, elle est dans la lune chez le boulanger. Je voudrais des prunes, dit la Libellule, je n'ai que du pain. Allez voir mon voisin. Tapassa, 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 hé! Dame Libellule s'en alla sonner, elle est dans la lune chez le charcutier. Je voudrais des prunes, dit la Libellule, j'ai du bon jambon, du bon et puis du bon. Tapassa, tapassa, non, tapassa, tapassa. Elle est dans la lune chez le cordonnier. Je voudrais des prunes, dit la Libellule, j'ai de beaux souliers, venez les essayer. Tapassa, 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 tapassa. Je voudrais des prunes, dit la Libellule, je te donne mon cœur, lui dit le laboureur. Tapassa, 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 hé! Dame Libellule rentre du marché, elle n'a pas de prune pour s'effarfader. Dame Libellule n'est plus dans la lune, elle a pris le cœur de ce beau laboureur. Tapassa, tapassa, hé, tapassa.
Venons d'écouter Dame Libellule de l'album Tom Pouce de la compagnie Joseph Tascone. Et maintenant, je passe la parole à Fred pour la suite de l'émission.
Dimanche 28 octobre 2012, 11h, nouvelle heure d'hiver, d'étranges silhouettes affluent à la courte cartoucherie de Vincennes, lieu mythique du théâtre. Elles se rassemblent pour tenter d'élucider une mystérieuse question. Pourquoi faut-il raconter des histoires ? Répondre par des histoires à si grandes questions qui renvoient à notre capacité à mettre le monde en mots a été l'enjeu de cette journée. Six questions, les histoires, source d'enchantement, les histoires, vérité ou mensonge, dire pour résister, une société sans récit. Ailleurs, c'est ici, toutes les histoires sont-elles bonnes à dire, histoires vraies ou vraies histoires? Le plaisir des histoires s'accompagne toujours d'un regard sur nos expériences, nos sentiments, sur les liens qui nous permettent de vivre nos espoirs, nos peurs et nos joies. Par groupe de quatre, des conteurs ayant une longue expérience mêlée à des représentants de la nouvelle génération ont témoigné par leur récit de l'actualité du pouvoir des histoires et de leur utilité profonde. Des temps de réflexion ont permis à des philosophes, ethnologues et écrivains de s'interroger sur le devenir d'une société qui oublierait de privilégier ses récits. Alors voilà, moi j'y étais à cette journée à 17h à la fin d'une très belle journée d'histoire. L'air est vif, le soleil est lumineux. Et dans la file d'attente, devant le théâtre, un couple de jeunes étudiants qui découvrent l'univers du conte discutent avec passion de ce qu'ils viennent d'entendre. Ils ont accepté, Pierre, de nous livrer quelques-unes de leurs réactions. Alors voilà, je vous ai pris un petit peu en otage. Vous êtes devant une des salles de la journée sur pourquoi faut-il raconter des histoires. Et vous avez un petit peu entendu des choses depuis ce matin, je crois. Vous êtes là depuis ce matin.
Oui, depuis 11h. Oui.
D'accord. Et alors, vous avez entendu des histoires qui vous ont plu?
Oui, bah, on en a entendu une douzaine. Enfin, il y a eu beaucoup de... Donc un aperçu assez... impressionnant de plein de manières de raconter, d'histoires très différentes les unes des autres.
Et par exemple, dans ces différents genres d'histoires, il y a des choses que vous avez retenues, des styles d'histoire qui vous ont peut-être plus marqué?
Moi, celles qui m'ont le plus marqué, il y a eu une histoire dans le merveilleux, dans le thème du merveilleux, de l'enchantement, que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'un sage. Un taoïste, qui est un instrument de musique que je connaissais pas du tout, qui est très beau. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est histoire vraie ou vraies histoires, je crois. Et donc là, c'est plutôt des récits, enfin pas des récits de vie, mais les conteurs racontent des choses qu'ils ont vécues, au moins une partie. On ne sait jamais si tout est vrai ou pas. C'est aussi le jeu du conte. Mais du coup, c'était très, très touchant. Enfin, pour moi, il y avait vraiment une part de vérité dans ce qu'ils racontaient. Ça se sentait, en fait, dans leur... Enfin, c'est comme s'ils racontaient un souvenir et ils sont vraiment dedans et ils nous font partager ça avec tout l'enthousiasme et la poésie qui va avec.
Et c'est ça qui t'a touchée, du coup?
Ouais, moi, ça m'a vraiment touchée, ça. Ils ont vraiment réussi à partager ce souvenir-là avec nous. Souvenir qui... Enfin, au final, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce que j'ai entendu, mais... Voilà, là pour l'instant, je crois que c'est ceux qui m'ont le plus marqué.
Et toi, je sais pas si tu as envie de dire un petit peu, de parler des histoires qui t'ont marqué aujourd'hui, personnes qui t'ont marqué, je sais pas.
Les deux derniers, oui, ça m'a beaucoup marqué en fait, parce qu'on dit à Violette, on est dans la sensation ou des images propres. Je pense que l'individualité est là. Alors qu'il y a d'autres histoires, on a plus l'impression que, bon, voilà, on a les histoires, on a le déroulement, on a les événements. Et on, voilà, où est la part du conteur dans l'histoire? Et quand est-ce que ça devient vraiment, on bascule de l'autre côté et on se dit, ah ouais, c'est vrai ou ça a été vécu ou...
Mais d'un autre côté, enfin, ce qui est bien aussi dans le conte, c'est de raconter quelque chose d'assez invraisemblable, enfin, de merveilleux, de, voilà, on pose des gens dans un décor et tout est normal comme dans un rêve, en fait, où tout est normal. Et du coup, là, c'est vrai que ça nous a marqué parce que il y avait un côté plus d'émotion dans ce qu'ils racontaient parce qu'ils parlaient de leur vécu. Mais au final, un conte aussi, c'est aussi ce truc complètement fantastique d'événements, de bras, de déesses en pierre qui se transforment en terre, j'en sais rien, mais des choses un peu folles, quoi. Mais ouais, je sais pas.
En tout cas, du coup, ça alimente les conversations, d'entendre aussi peut-être tous ces récits les uns à la suite des autres, parce que vous enchaînez, d'après ce que j'ai compris, depuis ce matin.
Ouais, c'est bizarre parce que du coup, On passe en espèce de 5 minutes, on passe d'une histoire à une autre, d'un conteur à un autre, d'une salle à une autre. Parfois, c'est difficile de rentrer dedans, mais au final, ça va quand même.
Et peut-être avec des personnalités de conteurs très différentes aussi.
Ouais.
Et en dehors des histoires, est-ce qu'il y a des conteurs aussi qui vous ont plus marqué ou c'est lié aux histoires, comme tu l'as dit juste avant? Ma question n'est pas claire.
Non, je crois que c'est les histoires. Enfin bon, bien sûr, il y a la manière de raconter, mais je crois que... Il y avait un conteur qui racontait plutôt bien, mais dont l'histoire me parlait pas du tout, et je suis pas rentrée dedans. Et je pense que l'histoire est vraiment, vraiment importante.
Et les histoires qui t'ont marqué, tu penses que c'est aussi par rapport à ton vécu à toi, peut-être, que cette histoire te marque toi plus particulièrement ?
Non, je crois que c'est suivant l'imagination qu'elle me suscite. Oui, je peux être touchée par des choses parce que je... Mais pas vraiment.
Et là, vous allez encore écouter des choses ?
Je crois, oui. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Tout un programme aujourd'hui, sur toute la journée.
On a encore deux grosses séances, là.
Oui, donc c'est vraiment intensif, du coup.
Si on va y arriver.
Société sans récit.
Ah, ouais. Et ça vous inspire quelque chose là, peut-être pour terminer ce petit moment, société sans récit là, comme ça, à froid. À chaud, à froid. Il fait froid.
Je sais pas du tout.
Vous savez pas à quoi vous attendre, vous y allez vraiment,
vraiment
l'esprit ouvert sans vous attendre à quelque chose de particulier.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, ce que je me pose comme question, c'est à quel moment on tombe dans le compte et à quel moment on ne l'est pas.
C'est vrai.
Parce qu'on a pu voir les histoires, parce que tu parlais du merveilleux, du fantastique, on peut être dans le conte dedans, et en même temps il y a des histoires vraies qui peuvent marcher du fait du conteur. Et parce que c'est une histoire, mais pourtant elle n'a rien d'invraisemblable, elle n'a rien de merveilleux.
Mais c'est vrai que du coup t'as l'impression que c'est un conte, c'est vrai.
Est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est le conteur qui en fait un conte de parce qu'il donne au personnage, ou... Ouais, je sais pas.
Et du coup, est-ce que c'est des journées pour vous qui peuvent être importantes pour peut-être ou pas trouver des réponses? Du coup, d'entendre des histoires, beaucoup d'histoires comme ça à la suite, ça vous donne des réponses? Des débuts de réponses?
Non.
Plus de questions que
moi, ça me donne plus de questions.
Ouais, plus de questions.
Ok. Ben, je vous remercie beaucoup et je vais vous laisser continuer la journée. Et puis, bonne écoute alors. Merci.
Oui, dire sur Radio Campus. 93.3.
Cette journée était organisée par Monde Oral, qui est un programme d'action autour du conte et des arts de la parole. Il réunit 4 établissements, le Conservatoire contemporain de la littérature orale à Vendôme, la Maison du Conte à Chevilly-Larue, le Centre des arts du récit en Isère et l'association Parole Traverse à Rennes. Monde Oral s'est donné pour mission de mettre en visibilité l'art du conteur aujourd'hui sous ses formes multiples et foisonnantes et de contribuer à la transmission et à l'enrichissement du patrimoine immatériel oral, narratif et littéraire de la société. En tout cas, cette journée, elle était joyeuse, vivante. Catherine Zarkat, Bruno de la Salle, Didier Govarsky, Praline Guépara, Djihad Darwish, Bernadette Bidot, Catherine Gaillard, Abby Patrix, Nadine Walsh, Yann Blake, Jeanne Ferron, Myriam Pellican, Nicolas Bonneau, Rachid Boili, Achille Grimaud, Michel Nguyen et encore plein d'autres. Ils étaient tous là, tous ces conteurs, toutes ces voix, toutes ces histoires qui chatouillent les tympans et font frissonner le palpitant à ne plus savoir où donner de l'oreille. Et en plus, c'était pas fini. Le lendemain même, ça a continué. Le lundi 29 octobre, il y avait une rencontre nationale autour du conte et des arts de la parole organisée par l'APAC, Association professionnelle des artistes conteurs, et le RNCAP, Réseau national du conte et des arts de la parole, sur le thème « Demain, quels outils pour le conte ?» vers un espace de concertation entre les acteurs du conte. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister parce que moi, il a fallu que je rentre à Clermont-Ferrand pour vous raconter tout ça. Bon, alors, il va bientôt être l'heure de se quitter. Mais avant, voici la réponse à la devinette posée la dernière fois. Je vous rappelle la devinette. Il s'agissait de jumeaux, un frère blanc, une sœur noire. Depuis la nuit des temps, chaque matin, le frère blanc tue la sœur noire et chaque soir, la sœur noire tue le frère blanc. Et pourtant, ils sont toujours vivants. Alors, à qui l'honneur de donner la réponse ?
À moi ?
Allez, on t'écoute.
Aussi.
Oh bah allez-y.
Alors, c'est le jour ? et la nuit.
Le jour et la nuit, bien sûr.
Merci beaucoup. Et je suppose que de toute façon, tous nos auditeurs avaient trouvé la réponse. En tout cas, je vous dis merci Fred, merci Christine, merci Monique. Merci. Et puis, bien sûr, merci beaucoup Françoise pour cette belle chronique sur le de la rue Éthénèse. Il faut quand même que je vous donne une autre devinette. Fred, tu voulais me dire un truc? C'est ça, hein, t'attends la prochaine devinette. T'as envie de réfléchir, toi, je savais bien. Alors, nouvelle devinette. Sors d'une bouche pour entrer dans une autre bouche. Ça vous dit quelque chose comme ça? Est-ce que je donne un indice en plus, Françoise, à ton avis? Non, on les laisse chercher? Bon, alors, pas d'indice supplémentaire. Si vous trouvez la réponse ou que vous avez envie de réagir par rapport à l'émission que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à cette adresse. Christine, c'est toi qui l'as fait, l'adresse mail, ou qui c'est qui l'a fait? Moi, je m'en souviens jamais.
Oui, dire 93.3@gmail.com.
Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Pierre,
au revoir.
Merci encore. Pardon. Merci beaucoup pour ton efficacité. À la prochaine fois.
Ça marche.
En attendant de vous retrouver dans Ouï dire sur Radio Campus 93.3, on vous rend vos oreilles. Prenez-en soin, dorlotez-les, chouchoutez-les, faites-en bon usage et pensez à nous les ramener la prochaine fois.
Oui dire.
C'est Radio Campus 93.3. Oui dire.